Chapitre 3. Il faut me recueillir pour raconter ce qui vient d'arriver. Il faut que demain, quand moi-même aurai repris mon sang-froid, je sois en mesure de relire les phrases exactes avec les expressions et jusqu'aux intonations qui les ont soulignées. Voici. Arlette l'a jugé bon, pour une raison que j'ignore encore, de congédier Marie. Marie est cuisinière, et je ne tiens pas plus à Marie qu'à une autre, bien qu'elle nous ait fidèlement servi depuis notre arrivée. Les renvois de domestiques sont du domaine du ménage, et je n'ai rien à y voir. Cependant, quand Arlette m'a dit la chose, j'ai voulu connaître ce qui la motivait. Non pas que j'ai désiré rien changer, mais par un goût naturel de ne pas ignorer ce qui se passe chez moi. J'ai donc demandé « Mais qu'y a-t-il eu entre elle et toi ?» Arlette, qui travaillait à son ouvrage avec une évidente nervosité, n'a d'abord pas répondu. Il m'a fallu répéter la question. Alors, sans lever les yeux, elle a prononcé d'un air calme « Rien, non, une parole de trop, et que je n'ai pas supportée. » « Mais laquelle ? Je ne m'en souviens déjà plus. C'était donc si peu grave. » Silence d'Arlette. « Alors j'insiste, mais pourquoi ne pas me le dire ?» Arlette a un mouvement d'épaule. « Je croyais qu'il était entendu, que tu me faisais crédit. » Au moins pour la conduite de la maison. Je m'empresse de répliquer. Mais aussi n'est-il pas question de réviser un procès jugé, mais simplement d'être mis au courant. Elle a secoué la tête. Mettons que c'est un contrôle. De la curiosité, plutôt. Mais sais-tu que parfois les curiosités risquent de tuer la confiance ? Surpris, je me tais à mon tour. Pourquoi une telle résistance à ma demande si naturelle ? Sera-ce notre premier conflit ? Et pour quelle cause absurde ? Après une courte réflexion, je décide de céder. Soit, je ne réclame plus rien. Cependant, quoi encore ? Cependant, je voudrais relever un mot que tu as prononcé et qui m'inquiète. Tu assures que la curiosité tue la confiance. La tienne en serait-elle déjà là ? Que pour si peu, elle risque de sombrer ? Elle a brusquement déposé son ouvrage et me regardant cette fois, je me demande où tu veux en venir. J'ai dit qu'elle me regardait, et précisément, avec les yeux clairs que je lui vois depuis des semaines, ces yeux où l'on se perd si bien qu'on a l'intuition qu'ils sont un piège et ne se livrent ainsi que pour empêcher d'y rien lire. Une fièvre s'est emparée de moi et j'ai repris. Arlette, pourquoi n'es-tu plus sincère avec moi et que me caches-tu ? Elle s'est redressée avec violence. Mais quand ai-je caché quelque chose ? Et vas-tu pour un ragot de domestique ? Je l'ai interrompu. Non, il ne s'agit pas de domestique. Il s'agit de nous. Plus je t'examine depuis de longs jours, plus j'ai la certitude que tu gardes par-devers moi, je ne sais quelle pensée. Un regret, peut-être ? Elle a coupé à son tour ma phrase. « Pierre, serait-ce que tu deviens fou ?»« Non, pas fou, mais clairvoyant. »« Ah, mais comment découvrir ce qui est là, derrière tes yeux, dans ce cerveau où je ne pénétrerai jamais ?»« Et moi ? » a-t-elle repris avec le même soudain emportement. « Moi, qui depuis des semaines... » te sens aux aguets devant je ne sais quel gibier qui n'ose même plus lever la tête de peur de rencontrer la perpétuelle interrogation. Ne puis-je te répondre, moi aussi ? Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Qu'ai-je fait ? D'un même élan, nous nous étions levés. Nous avions été l'un vers l'autre comme on court à un assaut. J'ai crié. « Tais-toi, c'est à moi de réclamer d'abord la vérité. » La vérité consiste à sortir enfin de la cave où nous étouffons et tâtonnons en aveugle. Parle, encore une fois, à quoi songes-tu? Qui crains-tu? Pourquoi ne puis-je plus désormais prononcer certains noms? Oui, celui de Revel, par exemple. Mais celui de Revel ou un autre, peu importe, car tout se vale à mes yeux. Je me suis emparé de ses mains. Revel apparaissant ici m'avait rendu ivre. Mais elle s'est débattue, et tout à coup, avec un rire qui m'a traversé, « Et pensez que c'est peut-être parce que tu m'aimes que nous en sommes là. » À mon tour, j'ai répliqué, « Et pensez que si tu m'avais aimé comme je t'aime, je n'aurais pas à mendier le nom d'un étranger que je sens nous séparer. » Elle a levé les bras au ciel. « Pierre, Pierre, mais ce que tu dis n'a plus de sens. Quel étranger ?»« Oui, quel étranger ? Fantôme ou vivant ? Oh, que le cauchemar finisse !» Mais subitement, ses bras m'ont enveloppé. « Pierre, Pierre, arrête-toi. Nous allons nous faire du mal. Et tu sais bien que ce sera pour rien, puisqu'après cela, nous ne nous en aimerons pas moins. » Alors, à cet appel, ma colère est tombée comme un manteau. Dégrisé, j'ai de nouveau plongé dans ses yeux et n'y ai découvert qu'un immense effroi de ne plus nous aimer. Une fois de plus, j'ai cru en elle. Puis je suis monté ici. Le prestige se dissipe et je recommence. Est-ce Revel, est-ce un autre, ou est-ce moi qui deviens fou comme elle le prétend? Ah, crocheter ce secret dont je sens plus que jamais qu'il demeure. Peut-être Marie n'est-elle chassée que pour l'avoir deviné? Peut-être suffit-il de regarder du dehors pour apercevoir ce que je ne vois pas? Qui sait si la Bérouville... Demain, après avoir relu, j'irai au presbytère. Singulière conversation, prêtre encore plus singulier. Il faut passer sur le début de l'entretien. J'ai d'ailleurs été droit au but. Monsieur l'abbé, je désirais recourir à vos lumières pour un cas où l'expérience de votre ministère me sera d'un utile secours. Si c'est au prêtre que vous vous adressez, a-t-il fait aussitôt, mon église est à deux pas. Non, 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 c'est l'homme seul dont je viens solliciter les conseils. Il s'est incliné, puis a écouté mon récit sans placer un mot. Quel soulagement à certaines heures d'étaler sa plaie devant un inconnu. Non seulement je crois n'avoir rien omis, mais à mesure que j'avançais, je jugeais avec un sens nouveau les choses dont je parlais. Quelques-unes m'ont semblé rapetisser et devenir insignifiantes. L'idée qu'Arlette peut encore aimer Revel, par exemple, m'est apparue subitement comme la fantaisie d'un mauvais rêve. D'autres, au contraire, prenaient un relief extraordinaire, alors que je les avais tenus auparavant pour l'accessoire du décor. C'est ainsi que j'ai insisté sur notre impuissance à nous pénétrer vraiment, sur la sensation d'usure que me donnaient nos têtes à tête. Et à peine, enfin, ai-je parlé d'un secret possible, bien que je ne sois venu que pour cela. Mes explications terminées, j'ai attendu la réponse de la Bérouville. Mais il était plongé dans une réflexion profonde. Eh bien, ai-je demandé, que faire? Il a répliqué enfin... Oh, c'est fort simple. Vous réfugier en Dieu, vous convaincre qu'on ne doit aimer que lui, et en l'aimant uniquement, éprouver un tel détachement d'ici-bas, que ce qui vous trouble à ce degré, cessera d'exister. J'ai repris avec humeur. Mais nous ne nous entendons pas. Je ne suis pas venu solliciter ici des remèdes mystiques. Vous avez le droit de me juger, à plaindre de n'en pas vouloir, mais prenez-moi pour ce que je suis, c'est-à-dire un homme qui souffre, non un saint ou quelque autre disposé à le devenir. Oubliez votre costume, votre foi, que je ne partage pas. Ne faites appel qu'à votre expérience. Je la soupçonne étendue. Et répondez à ma question par des clartés humaines, les seules à m'apporter. Encore une fois, que faire? Il a hoché la tête. Dans ce cas aussi, c'est très simple, rien. Comment? Est-ce là tout ce que vous trouvez? N'avez-vous pas saisi qu'il s'agit de mon bonheur, de ma vie même? Il a répété, rien. Puis, m'ayant regardé longuement, pesamment, cher monsieur, ce que vous jugez un cas exceptionnel est au contraire de règle. Vous subissez l'évolution commune. Pendant quelques mois, quelques années, vous avez tenté de réaliser la fusion totale de deux êtres, de ne former qu'une âme, qu'un désir. Tant pis si vous aviez compté échapper à la morne norme qui régère l'humanité. On ne s'égare pas vraiment dans de pareilles délices, et le retour qui suit les fait payer. Non seulement l'amour ne peut être qu'un moment, mais il n'est qu'un appel. S'il existait tel que vous l'aviez révélé, reconnaissez que le monde n'aurait plus qu'à suspendre son cours, c'est-à-dire à disparaître. La loi est autre. Se chercher, avoir l'illusion de se trouver, ne se trouver qu'à demi, puis devenir l'un pour l'autre une habitude, tantôt agréable et tantôt subie, s'estimer quelquefois, se tolérer presque toujours, rarement se détester tout à fait, enfin, et sauf quelques exceptions plus rares encore, ne pouvoir plus se quitter. Tel est le tracé universel qui s'impose à vous, comme au reste des hommes. Vos soupçons me paraissent la forme maladive d'une déception trop prévue. Écartez-les, parce qu'ils sont de la révolte inutile. Résignez-vous à supporter votre déconvenue à laquelle il n'est point de remède. Souffrez-en d'abord beaucoup, puis un peu moins. Enfin, et surtout, gardez-vous d'en faire souffrir aussi la femme qui, suivant toute vraisemblance, traverse à vos côtés, mais sans se plaindre, une douleur pareille à la vôtre. J'ai répondu. Ainsi, vous estimez que deux êtres, tels que nous, auront eu beau aspirer au même sommet, haleter après la même ivresse, c'est chimère que d'espérer leur union. Le voyage commencé de concert doit en faire deux étrangers. Mais vous avez très bien saisi. Mais ce que vous dites est effroyable. Non, monsieur, c'est un constat. L'homme est seul, obligatoirement seul. Toutefois, il le remarque rarement. C'est votre malheur que vous vous en soyez aperçu. À cela, je ne puis rien humainement, sinon de vous souhaiter de n'y plus penser. Avec un peu de bonne volonté, on y parvient. Il suffit de s'oublier soi-même pour beaucoup songer aux autres. Mais savez-vous que si c'est vrai, mieux vaudrait mourir? Il a haussé les épaules. Allons, vous oubliez déjà la seconde partie de mon avis. Ne pas faire souffrir une autre. Souffrirait-elle de ma mort? Évidemment. J'en doute. Pourquoi? J'ai considéré le prêtre à ce moment. Il avait, comme Arlette, ce regard clair que je prends en haine parce qu'il me semble le signal du mensonge. Jurez-moi donc que ma femme n'en aime pas un autre et qu'en disparaissant, je ne la rendrai pas heureuse. Il a répliqué, placide. Un prêtre ne jure pas, et l'homme que je suis vous supplie de ne jamais vous poser pareille question. Elle peut faire naître une réponse, c'est imprudent. Ah, me suis-je écrié, vous ne me diriez rien, même si vous saviez quelque chose. Il s'est contenté de hocher la tête avec un sourire incertain. Ensuite, il a tenu à m'accompagner sur la route, et au moment où nous nous séparions, a pris encore mon bras amicalement. Quand vous aurez le cœur trop lourd, revenez. Il y a ici pour vous accueillir un solitaire qui a connu les mêmes épreuves que vous. À bientôt, n'est-ce pas ? Il a raison. Nous sommes deux. Je suis seul. Là est le supplice. Être seul n'est pas vivre dans le silence et hors de toute présence humaine. C'est écouter des paroles et ne pouvoir les entendre. Être possédé par une femme et ne pouvoir l'atteindre. C'est guetter avidement, par-delà le sens des mots qui vont et viennent, un autre sens profond que l'on soupçonne, mais qui défie par son mystère la plus audacieuse effraction. C'est surtout, à l'heure où l'on se croit maître d'une âme, découvrir en elle des paysages lointains, inaccessibles, et si vastes que ce qu'on croyait connaître ne compte plus. Être seul, c'est encore déchirer sa poitrine, mettre son cœur à nu, chercher le cri qui traduira l'émoi dont on est ivre, puis sentir que la phrase vous trahit, qu'aucun verbe n'est capable de porter vers d'autres lèvres le frémissement dont la nôtre a vibré. On appelle, on explique, on supplie. Rarement une réponse vient, et quand elle est arrivée, on s'interroge avec stupeur. Mais ne m'a-t-elle pas écouté ou avons-nous changé de langue ? Plus de romans, je suis seul. Arlette est seule, tout le monde est seul. L'univers est un désert où chacun suit sa route, sans percevoir d'autre voie que la sienne, sans rencontrer d'autres compagnons que son ombre. Je remonte le cours de ma vie et découvre n'avoir jamais souffert que de cela. Être seul. J'ai eu des parents, des amis, des maîtresses, mais j'étais seul. Auprès d'Arlette, j'ai cru cesser de l'être. Je me trompais puisque me voici de nouveau seul, déplorablement seul. Solitude des amants et des amis. Solitude de la mère en lassant son fils d'une étreinte farouche et du père se mirant dans les yeux de sa fille. Solitude du prêtre cloîtré dans sa robe noire et du viveur caressant un beau corps. Et nous allons, du berceau où nous étions seuls, au cercueil où l'on s'étendra seul, pauvres hommes qui ont l'illusion de se comprendre. L'homme est impénétrable à l'homme, et la nuit règne autour de nous comme en nous-mêmes. Maintenant que je saisis le sens profond de la vie, tout s'éclaire, même l'absurde. L'étreinte n'est plus la fusion définitive de deux êtres qui s'aiment, mais le corps à corps de deux adversaires acharnés à déchirer les plaies que leur solitude a faites. Minutes divines et atroces où l'illusion jaillit qu'enfin on s'est trouvé. Plus de secrets, les âmes liées comme les lèvres. Après la randonnée nocturne à travers les soupçons, l'arrivée à la source claire, dans le matin conseillé de lumière. Puis soudain, les paupières se relèvent, découvrent un mystère mieux gardé, et dans le silence pâmé, nous avons l'air de deux malades allongeant leur cou au-dessus du gouffre. Seulement, le gouffre est entre nous. Premier jour de grand hiver. Le vent soufflait depuis une semaine. Ce matin, en me levant, j'ai aperçu la campagne blanche, l'air zébré par les flocons, le lac couleur de suie. Alors, nous sommes restés derrière les vitres sans parler. Il semblait que notre isolement s'accrut de toute l'âpreté de la bise, que le froid mettait de givre sur les croisées et la neige d'obstacles à notre porte, et moins le monde cesserait à nous troubler. Solitude encore, mais que va-t-elle donner? Lui devrais-je le rappel émouvant de nos premières tendresses? Un instant, j'en ai eu le fol espoir. Je voyais là-bas les rives mortes, la ville aux trois quarts effacée, l'eau livide. Aucune vie, point de chaleur ni de lumière en dehors de la chambre où nous paraissions tous deux naufragés, sans autre ressource que leur union. Et puis j'ai regardé les yeux d'Arlette. Le secret qui dort en eux y était toujours. Il est ridicule de revenir au tutoiement de deux enfants élevés ensemble. Il est ridicule que nous n'osions plus ni l'un ni l'autre parler de Revel. Après le dîner, j'ai eu le désir de prononcer son nom et j'ai reculé. Cependant, je sentais qu'elle-même songeait à lui au même moment et qu'elle était soulagée parce que je n'ai pas pu me résoudre à rompre le silence. Lassitude de vivre, lassitude d'être seul. Les heures tombent sur mon front comme des gouttes espacées et avec une régularité qui martyrise mes nerfs. Elles ont l'air de scander une marche d'aveugle. Et moi-même, je marche depuis si longtemps. Comment rendre la nostalgie qui me dévore, le goût de mort qui me vient aux lèvres, la détresse dans laquelle je sombre, sans que je tente d'appeler à l'aide, enfin l'atroce mélancolie d'un temps que rien ne peut remplir et qui s'attarde d'autant plus qu'il est plus lourd à supporter. Je vois l'univers à travers une couche d'eau. Aucune voix ne la traverse, et la mienne s'est tue. Est-ce moi qui ne tiens plus à rien ou les choses qui m'abandonnent? Mon ombre me quitterait sans provoquer ma surprise. J'ai jeté bas toute ambition. Je heurte du pied comme un vase vide mes plus chères espérances. Mon cœur dépouillé ne nourrit pas de désir et ma pensée ne s'agite que pour mieux affirmer l'étendue d'un désastre auquel je souhaite ne pas survivre. Hier soir, enfin, j'ai osé prononcer le nom. Elle a levé la tête avec un étonnement joué. Mais pourquoi en parler puisque cela t'est désagréable? Ont murmuré ses lèvres. Mais sa joie m'a donné envie de crier. Je me suis levé et je l'ai quitté. Ensuite, je ne sais plus où je suis allé. Le bruit du lac soulignait d'un gémissement continu mon pas saccadé. J'apercevais devant moi une ligne pâle qui était la route, et je marchais. Je me disais, comme elle l'aime, mais s'écrivent-ils encore? Se sont-ils revus? Si Revel n'était que la rue choisie pour mieux cacher l'autre. Ah, l'autre, mais qui est l'autre? Puis tout à coup, j'ai pleuré. Jaloux, et je suis jaloux. En même temps, j'aurais voulu ne plus respirer que l'odeur pure qui vient des cimes où me rouler est-elle une bête dans la nature fleurie, vivante et saine. Je me demande avec insistance par quel miracle Arlette est devenue ma femme. Je me demande si elle m'a jamais aimé. Elle m'a choisi, soit, il y a tant de raisons au choix des femmes et à celui d'une vie. Je n'étais ni beau ni plus intelligent que la plupart, mais ma famille, ma fortune, la bonne volonté évidente de ma passion suffisaient à faire bon poids dans la balance. Quand on aime, attend-on près d'un an pour répondre? Qu'a-t-elle attendu pendant un an? Sinon peut-être de déprendre son âme d'un passé qui la tenait aux entrailles. Et voici qu'en écrivant ces mots qui me désolent, tandis que toutes mes phrases nient son amour, je sens le mien ressusciter. Nous nous sommes rencontrés ce matin. Il avait été visiter un malade et revenait paisiblement par un chemin creux. Je ne pouvais l'éviter et c'est lui qui, en m'abordant, a demandé « Eh bien, où en êtes-vous ? » Il examinait en même temps mon visage avec attention. Il avait dû noter du premier coup d'œil l'allure de somnambule qui est désormais la mienne. Et voyant que je ne répondais pas, il a glissé son bras sous le mien. « Alors, je sens que vous avez besoin de vous taire, mais je suis sûr que vous en avez besoin aussi de m'écouter. Tout c'est clair, n'est-ce pas ? Vous goûtez jusqu'à la lie la coupe de solitude et vous vous révoltez, comme j'ai fait jadis. Bref, vous êtes l'oiseau entré par hasard dans la chambre et qui, affolé, tournoyant, battant la vitre, tantôt la glace. La vitre montre la liberté, la glace ne montre que notre image. On meurt de cela, on croit du moins qu'on va mourir. » Il m'a serré affectueusement contre lui. « Non, mon ami, l'oiseau a tort de ne pas bien regarder. Il y a aussi une porte menant au couloir et qui est ouverte. Si le plein soleil, c'est-à-dire votre retour à Dieu, ne donne pas directement sur ce passage, c'est tout de même un acheminement vers le grand chemin et la sortie certaine. » J'ai murmuré « la sortie ». Il a repris sans s'arrêter à mon interrogation. « Mon ami !» et il appuya sur le mot. « Qu'il ne vous suffise plus de reconnaître la solitude. Une fois la vérité établie, que un et un restent toujours un et un, sans jamais devenir deux. Il faut aller au-delà, oublier une désunité, je veux dire s'oublier soi-même, et penser à l'autre. » Vous abusez des énigmes. Prétendez-vous qu'après avoir renoncé à son propre bonheur, il a achevé « On doit faire celui de l'autre. » Voilà justement ce que je comptais exprimer d'un seul mot, le sacrifice. Il a ensuite laissé passer un temps, comme pour me laisser le loisir de m'habituer à l'idée qu'il soulevait. Puis j'ai entendu qu'il poursuivait « Le sacrifice n'exige ni grand cri ni geste sublime. C'est un acte beaucoup plus humble, terre à terre, si vous y tenez. Il consiste à bâtir la paix d'un cœur avec les morceaux du sien, quitte à s'étonner après d'avoir gagné soi-même, et par une voie si détournée, un calme auquel on ne croyait plus. » J'ai voulu l'interrompre. Supposons par exemple que, ravagé par la jalousie, il ne m'a pas laissé achever. N'allez pas plus loin. Supposons en effet que votre âme se consume en soupçons cuisants, autant qu'invérifiables. C'est l'heure d'étrangler la bête qui est en vous. Songez plutôt que les mouvements de l'esprit ne dépendent pas de nous. Un désir qui s'égare n'aurait de valeur que s'il passait à l'acte. Et puis sacrifiez-vous. Cela consistera ici à oublier votre orgueil, à détendre le baillon que vos mains appliquent avec colère sur une bouche qui, délivrée, ne parlerait que de vous. La récompense suivra. Comprenez par là que, cessant de demander à la vie ce qu'elle ne peut donner, l'un et l'autre, vous continuerez la route sans vous pénétrer. C'est possible et même certain, mais avec douceur et dans une sérénité qui est le terme et le sommet des grandes joies d'ici-bas. » Nous venions d'arriver devant le presbytère. Il a conclu « Voilà, je pense, qui vous explique mieux que l'autre jour pourquoi je suis venu dans cette maison. Si je vous le rappelle, c'est pour vous assurer que, parlant de douceur et de sérénité, je n'ai fait que vous traduire une expérience du sacrifice très personnel et que je n'ai jamais regretté. » Je me révolte. À pousser jusqu'au bout les idées de ce prêtre, on devrait. Mais non, il a parlé de ce qu'il ignore. L'amour ne se donne pas. Il prend. Après ceci, mourir. Une seconde, oh, rien qu'une seconde. J'ai cru la posséder tout entière. Je rapporte à la nostalgie d'un paradis qui ne se rouvrira jamais. C'était hier soir. Nous errâmes d'abord à travers les allées. Une tiédeur anormale enveloppait notre marche et j'entendais distinctement le frisselis de sa traîne sur le gravier. Nous ne parlions pas. Le bruit même d'une voix chère nous aurait fait tressaillir douloureusement. Puis nous sommes rentrés, toujours les bras unis, nos corps ployés sous les bois que nous avaient jetés les étoiles, le parfum de l'ombre, la nature effacée. Elle m'a dit « Pourquoi y a-t-il des heures où je te sens meilleur ?» J'ai répondu « Parce qu'à ces heures-là, je te devine hors du passé. » Elle a haussé les épaules. « Il n'y a plus de passé. » Parole divine. Mes yeux demandaient « L'as-tu aimé ?» Les siens répondaient, ou je pouvais croire qu'ils répondaient, « Mais fasse jusqu'à son nom. » J'ai courbé la tête. Nos lèvres se sont jointes. Et je répète que j'ai eu envie de mourir, puisque ce matin, quand je l'ai regardé, je n'ai plus su si j'étais la dupe d'une nuit d'ivresse ou si pour quelques heures, j'avais franchi le seuil interdit. Si la solitude est l'essence de la vie, pourquoi la mort ne serait-elle pas l'accès dans un pays où l'on n'est jamais seul? L'unique seule chose à tenter, faire comme si je savais le secret de l'autre. Je me rappelle un soir aux Champs-Élysées, un homme pleurait sur un banc. J'approchais de lui et demandais « Ne pourrais-je vous venir en aide ?» Il leva la tête avec violence. « Non, monsieur, il faudrait pour cela que je vous dise ce dont je souffre, et je ne peux pas. » Ainsi, c'est cela la solitude, de pouvoir pénétrer au cœur, même s'il s'efforce de se livrer, de pouvoir exprimer son propre cœur, même devant soi-même. Nous sommes des prisonniers en cellule. On frappe le mur à cours doublé, on crie, on appelle, on distingue au loin des voix. Si la porte allait s'ouvrir, mais il ne vient personne, et la serrure ne bouge pas. Nuit sereine, j'achève la route, l'apaisement commence. J'étais un mendiant toléré au festin. Le mendiant va se glisser sans bruit hors de la salle. Personne ne s'apercevra qu'il est parti, et l'hôte, depuis si longtemps désiré en secret, pourra venir. Je viens d'écrire à Revel et goûte l'amère saveur du sacrifice. Ce n'est rien. Revel ou un autre, qui prendra ma place, qu'importe. L'abbé conseille de bâtir du bonheur avec des débris. Il se trompe. Pour que la partie recommence, il convient de faire place nette. Je m'efface. Ô solitude, il a fallu que sonne à l'heure où je regarde la mort en face pour enfin te remercier. Tu nous permets du moins de disparaître sans crainte, car ce qui vient ensuite ne saurait être pire que toi. Si plus tard quelqu'un lit ces lignes, qu'ils se disent que moi aussi, par la vertu du sacrifice, j'ai connu la douceur d'une paix résignée et la volupté de tout donner pour celle que j'aimais. Nuit sereine. Je n'insisterai pas sur la première stupeur que me laissa la lecture de ce qui précède. J'avais donc, sans le savoir, par suite d'inexplicables circonstances, jouait un rôle prépondérant dans la mort de Pierre. Si expurgé qu'il fût, et bien que nombre d'incidents d'égale gravité aient dû en être écartés, le journal de Pierre m'accusait sans m'excuser ni pardonner. En me le faisant remettre dans les conditions qu'on a vues, il semblait enfin qu'au-delà même du tombeau, Pierre se vit obstiné à m'attribuer l'entière responsabilité du drame. Pour lui, je demeurais l'occasion, consciente ou non, de la tempête qui avait détruit son foyer. Si violente que fût ma douleur devant une pareille découverte, il s'y mêla aussitôt, je dois l'avouer, une intense révolte qui tarit ma pitié. Je voyais trop la cruelle partialité de mon ami pour m'attacher à le plaindre. Fort heureusement aussi, le premier choc subi, d'autres pensées me vinrent qui, si elles ne diminuaient pas ma perplexité, aidèrent pourtant à me rassurer. Et d'abord, il était évident que Pierre avait été la proie de suggestions morbides. Seul un fou avait pu s'arrêter, sans même l'ombre d'un prétexte, à l'idée de je ne sais quel absurde roman de jeunesse entre Arlette et moi, roman resté vivant et toujours regretté. Arlette n'avait pas eu tort de redouter la folie. Les faits, hélas, lui donnaient trop raison. Autre impression, les propos du prêtre pour le moins obscurs. Figuraient tous dans les fragments laissés par Pierre, c'était peu probable. En tout cas, impossible de ne pas y remarquer à l'égard d'Arlette une violente antipathie dont je n'entrevoyais qu'une origine. Avisé comme il le paraissait, l'abbé Rouville avait dû voir ou deviner quelque chose ignoré de Pierre, mais qu'était-ce? Ici, les suppositions, quelles qu'elles fussent, devenaient un jeu vain. En revanche, j'en arrivais logiquement à interroger la conduite d'Arlette, toujours peu explicable, qu'il s'agit de nos relations récentes ou des incidents relatés dans le journal. Si elle avait appréhendé vraiment un dénouement tragique, je ne pouvais en douter. Pourquoi n'avait-elle pas mieux défendu contre lui-même l'homme qu'elle aimait? Quel rôle avait-elle joué? Maladroit, indifférent ou pire? Irrésistiblement, comme le prêtre, comme Pierre, je humais autour d'elle une odeur de mystère. Je commençais aussi de comprendre qu'en m'adressant après coup son journal, Pierre avait moins désiré m'accuser que me confier la tâche de dissiper l'obscurité dont il allait mourir. Mais par quelle voie y parvenir, et y arriverai-je jamais? Un seul point à ce moment attira peu mon attention, l'obsession de solitude qui marquait la mesure tout le long des pages de Pierre. J'étais encore à l'heure où l'on ne comprend pas, suivant la forte expression de l'abbé Rouville. Tant de désespoir à l'occasion de métaphysique me semblait un corollaire de la folie. Passant ainsi à côté de la principale cause du drame, je prouvais une fois de plus qu'il ne sert de rien de confier sa souffrance, fût-ce au cœur le plus désireux de la partager, et que l'homme est bien impénétrable à l'homme. J'en étais là de mes réflexions et me sentais encore tout à mon émoi quand la porte de la chambre se rouvrit sous la poussée d'Arlette. Au bruit qu'elle fit et avant même de savoir qui entrait, je rassemblai d'un coup les papiers épars devant moi. Arlette me vit les jeter dans le tiroir de la table, puis fermer à clé celui-ci. Je me retournai ensuite et demandai d'un ton assez rude « Que me veux-tu ?» J'avais en effet la crainte de renouer un entretien dont je présentais d'autant mieux les dangers qu'elle et moi, à ce moment, paraissions étrangement nerveux. On a vu mon état. Celui d'Arlette semblait encore plus violent. Ses lèvres frémissaient et sur son visage d'habitude très calme, avait apparu une dureté agressive. Comme elle ne répondait pas tout de suite, je répétais « Mais qu'y a-t-il? Pourquoi reviens-tu ?» Elle tendit le bras vers le tiroir. « Ces papiers !» dit-elle enfin. J'attestais de ne pas comprendre. Toutefois, voyant qu'elle approchait, je me levai et m'adossai à la table. Nos regards se heurtèrent, pareillement décidés. Elle reprit. « Inutile de feindre. Tu as là un dépôt qui me revient, rends-le. » Je fis non d'un signe de tête. Elle poursuivit avec une violence qui m'effraya. « Mais c'est de pierre, donc c'est à moi. » Je dis encore non, de la même manière, têtue et muette. « Mais où ce prêtre l'a-t-il volé, et pourquoi est-ce à toi qu'il le revoit ?» Je murmurai cette fois. « On t'a dit, ah, oh, bon, je te félicite, ta police est bien faite. » Non pas d'ironie inutile, ouvrez rang. Il y eut un autre silence bref. Après quoi, très posément, je dis « Laisse là ta colère. Si tu m'avais donné le loisir de m'expliquer, tu saurais déjà que ces papiers, ne t'étant pas destinés, je compte les garder. » Avisant en même temps l'enveloppe écrite par Pierre et qui était demeurée sur la table, « Vois plutôt, c'est bien pour moi, uniquement pour moi. » Stupéfaite, Arlette contempla la suscription, témoignage suprême de la volonté d'au-delà. Puis je la vis blêmir, reculer, tomber enfin sur un siège lourdement. « Soit, fit-elle, mettons que je n'ai rien dit. » On perçut de nouveau le bruit sec du tiroir. J'y renvoyai l'enveloppe, rejoindre le reste du paquet. Et tout parut fini, bien que rien n'eût commencé. Qu'aurions-nous ajouté, et n'était-ce pas en vérité le mot le plus sage qu'elle venait de prononcer ? Mettons que rien n'est dit. Après cela, Arlette n'avait plus qu'à repartir, me laissant à mes méditations. Moi-même, j'aurais dû l'inviter à s'en aller. Pourtant, elle ne se relevait pas, je me taisais, et nous persistions à nous regarder. Elle n'avait pas renoncé à connaître le testament tombé entre mes mains. Quant à moi, je venais de réfléchir brusquement qu'il fallait obéir à Pierre sans plus tarder et tenter à tout prix d'établir l'accord définitif entre les vivants et le mort. Aurais-je toutefois osé reprendre la bataille et parler, cette fois le premier, sans l'inexplicable sensation d'alors? Aujourd'hui, en retraçant avec sang-froid des minutes si chargées d'émotions, il m'apparaît encore que je n'y fus pas le seul maître de mes paroles et de mes pensées. Quelqu'un supérieur à moi me les dictait. Je crois que si j'avais essayé de résister, je me serais évanoui et que d'elles-mêmes mes lèvres fermées se seraient rouvertes pour continuer. Et je dis, « Arlette, le moment est arrivé. Confie-moi ton secret. » Ses yeux qui ne cessaient de fixer les miens s'agrandirent sous une impression de terreur. Sans doute elle se refusait à comprendre, ou peut-être songeait qu'à mon tour j'étais devenu fou. Toujours entraîné par la force intérieure, je m'imaginais aussi que sa terreur était feinte, que sa compassion pour mon délire ne voulait que mieux rassurer une défense nécessaire. J'en étais là, déjà, que le mort semblait revivre en moi. Donc je poursuivis. « Non, je ne suis pas fou, je ne rêve pas. Je te répète, Arlette, il n'est plus possible que tu te taises. Quel est le secret qui dort en toi et qui a torturé Pierre ?» Elle continuait d'écouter avec un air d'étonnement sans borne. Elle ne marquait pas de révolte ni de colère. Si mon audace la frappait, elle devait surtout trouver extraordinaire que je connusse l'existence du secret. Je poursuivais toujours. On ne veut pas croire que je sois poussé par une curiosité vaine. Le désir de violer inutilement le mystère de ta conscience ne m'effleure même pas. Ce qui se passe est bien plus grave. Nous touchons à l'heure où, devenus de cristal l'un pour l'autre, nous devons dissiper les équivoques, choisir la route et savoir où tu iras. Qui as-tu aimé? Était-ce Pierre? Un autre? Moi ou personne? Quel nom, quel désir ont mis dans ton regard l'énigme que Pierre, découragé, a renoncé à déchiffrer? Et qu'à mon tour j'y découvre, et que tu dois révéler, sous peine de grandir l'irréparable qui est déjà survenu. Arlette, qui avait fermé les yeux au nom de Pierre, les rouvrit lentement. Je crus qu'elle allait enfin parler. Un seul mot sortit de sa bouche. Non. Voulait-elle dire qu'elle ne parlerait pas? Était-ce au contraire l'irréparable dont elle niait la réalité? Il importait peu d'ailleurs, puisque obstinément j'avais repris. Tu refuses de t'expliquer. Tu vas le faire cependant, car il est impossible que tu n'aies pas deviné, que tu ne saches pas la raison qui m'oblige à l'exiger de toi. Elle m'interrompit encore. La raison, quelle raison? Je désignai du geste le tiroir. Celle qui est là. Mais tu t'es refusé à me la montrer. Maintenant, je ne te crois plus. Tu me crois si bien qu'au seul énoncé de ma prière, ton visage s'est fermé. Oh, ne nie pas. Tu es capable de te taire, mais pas encore de mentir. Tout à l'heure déjà, simplement parce que j'avais vu le prêtre, tu as cru que j'allais parler et tu as pris la fuite. Je ne savais rien, je t'ai laissé partir. Maintenant impossible d'échapper à la vérité, tu vas l'entendre éclairer le passé, décider de l'avenir. Elle s'était dressée cette fois. Non seulement elle ne cherchait plus à s'évader, mais elle approchait, accourant pour ainsi dire, au devant des phrases qui la menaçaient. À l'effrayante contraction de ses traits, on aurait pu se demander si elle cherchait à hâter leur venue ou au contraire à les empêcher de sonner. Assez, commença-t-elle, assez d'un passé avec lequel tu prétends me torturer. Tu dis bien, assez du passé incertain, qu'il soit dans la lumière. Regardons enfin Pierre, nourrir de ton secret. Regardons-le, s'offrir en holocauste. Je n'achevais pas. Les mains d'Arlette s'étaient jetées vers ma bouche. N'ajoute rien. Mais comment le pourrais-je? Puisque Pierre s'est tué pour toi. Arrête, je ne veux plus t'entendre. Je ne veux pas non plus que sa mort soit inutile. Ouvre ton cœur, qu'on sache à qui il t'a rendu. Une dernière fois, elle clama « Arrête !» Mais ayant saisi ses bras, les yeux dans ses yeux, je criais moi aussi « Mais ton secret, Arlette, au nom de Pierre, qui t'a délivré !» Oh, je jure bien qu'à ce moment, j'avais oublié absolument que j'étais mêlé à lui. Ce que je voulais crocheter sur l'heure, c'était uniquement le mystère qui avait tué mon ami. Car mon ami n'avait pas été fou. À mon tour, et comme lui, maintenant que je contemplais le visage épouvanté d'Arlette, je le voyais effleurer sur la face, modeler le visage tragique et y appliquer un masque défiant ma tentative. « Ton secret, pour que tu en vives, S'il en est mort ? Plus de réponse. Rien qu'un abandon total. Subitement, Arlette était devenue inerte. J'aurais pu la saisir ainsi qu'un mannequin, la jeter par la fenêtre et n'aurait pas résisté. Ton secret ! Une seconde, 10 secondes. Grand Dieu ! Comment t'exprimer ce qui s'est passé durant un intervalle si bref que j'aurais pu le compter avec mon cœur entre deux respirations ? D'où m'est venue la lueur qui éclairait ainsi, et tout d'un coup, le martyre de Pierre ? Enfin, je comprenais que la jalousie, l'amour déçu n'y avait compté pour rien. Cris balayant la nuit, la solitude qui avait tué Pierre répondait à mon cri. Tu ne sauras pas, on ne peut jamais savoir. Nous étions bouche à bouche, haleine contre haleine, et grâce à elle, par elle, nos souffles ne pouvaient se joindre, ni ma voix atteindre Arlette. Qu'ajouterais-je encore ? Il me semble que soudain mes mains ont relâché leur étreinte. Un extrême découragement avait refroidi ma fièvre. Conscient d'être vaincu, je cessais de regarder Arlette, toujours murée dans son silence. Puis d'une voix que je ne reconnus pas, tant elle était lourde de chagrin, sans remède. C'est bien, retire-toi, tu n'as plus rien à faire ici. Elle m'écoutait sans bouger, sans avoir l'air d'entendre. Je repris. Désormais, il n'y a plus qu'à aller chacun de son côté, tout seul. Elle attendit encore avant de répondre. Quand elle parla, j'eus l'impression qu'elle s'adressait à moi d'une autre rive, et ce fut pour dire seulement « Je compte toujours sur toi pour vendre la maison et le reste. » « Oui, mais va-t'en !» Ensuite, elle sortit, sans hâte, à petits pas. Épuisé, je revins à la table et rouvris le tiroir. Dans l'affreuse détresse qui m'oppressait, j'avais conscience de ne pouvoir trouver de secours qu'auprès de Pierre. Je repris son journal. J'étais convaincu maintenant d'en avoir méconnu le sens profond. J'avais hâte de le relire avec d'autres yeux. Je crois bien pourtant m'être arrêté à la première phrase sur laquelle je tombais au hasard. Ainsi, c'est cela la solitude, de pouvoir pénétrer un cœur même s'il s'efforce de se livrer, de pouvoir exprimer son propre cœur même pour soi-même. Je me souviens également qu'un peu plus tard, j'entendis les domestiques arrimer des bagages sur une voiture et un roulement de départ. Arlette s'en allait sans adieu. Ensuite, je ne me rappelle plus rien, sinon que, respirant le silence farouche de la demeure abandonnée, j'ai refermé le journal de Pierre. À quoi bon continuer une lecture qui ne pouvait plus rien m'apprendre ? Je savais maintenant, par expérience, ce qu'est la solitude, et qu'une fois reconnue, elle ne pardonne pas. Des 3 exemples que je viens de raconter, quelle conclusion tirer, sinon que la solitude est un instrument de mort le plus redoutable qui soit ? Morte, mademoiselle Gauche ? Mort Pierre Geoffrelin, et si M. Champel s'est obstiné à vivre, la mort n'eût-elle pas été bienfaisante pour lui ? Il me suffit pourtant d'un bref recueillement pour entendre au fond de moi une autre voix, et l'ayant connue, douter que la solitude ne soit que cela. Non, elle n'est peut-être pas uniquement la bête malfaisante qui dévore et tue, Elle est aussi l'éducatrice qui fortifie, le prophète qui soulève. Les vrais forts ont été solitaires. Solitaires encore et presque tous, les savants, les artistes, les saints. Ô déchirement de la solitude, comme tu nous emportes loin de nous-mêmes, c'est-à-dire vers les hauteurs, arrachant l'homme au présent, tu ne lui laisses plus que l'avenir. D'un geste rude, tu relèves ta tête et le contrains à regarder mieux. Sans toi, aurait-il jamais découvert par-delà les mouvances du visible, l'âme éternelle du monde, les sphères de la pensée pure, le paradis où les cœurs se pénètrent après s'être si longtemps méconnus? Ce n'est pas tout. Désastre et cruauté de la solitude, grâce à vous encore, qui n'a senti au moins un jour sa douleur se calmer et l'âpreté du souvenir se fondre dans la paix d'un grand espoir. Car la solitude n'est pas seulement une force, elle est aussi l'asile profond des tendresses dépouillées. Par un jeu divin, elle qui sépare si bien les vivants semble au contraire abattre la muraille devant ceux qui ne sont plus. On ne comprend vraiment les disparus que dans la solitude où ils nous ont laissés. Tant qu'ils vivaient, on ne savait quels ils étaient. À peine partis, ils deviennent la page ouverte que le cœur solitaire déchiffre tout entière et sans effort. Mais à quoi bon poursuivre? Il s'agit trop ici de choses du dedans. Baissons les paupières et taisons-nous. Devant moi, comme au début, la neige étincelle, ignorant nos douleurs passagères. Cependant, mes yeux ne se détachent pas de ces glaciers. C'est qu'ils te ressemblent, ô solitude, désert vertigineux, espace mort resplendissant de lumière, royaume du silence. C'est que, pareils aux solitaires, les malheureux égarés sur leurs crevasses et pris au piège que dérobe la neige deviennent des héros et sont tout près du ciel.